Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, durant la première partie de nos émissions, nous allons continuer notre série destinée à répondre aux questions de nos auditeurs sur la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Jean-Marc sera de retour parmi nous pour nous parler du fait que nous pouvons attrister le Saint-Esprit.
Bonjour Jean-Marc, nous venons d'annoncer le sujet de notre discussion. Il est possible d'attrister le Saint-Esprit. Oh, ce sujet pourrait en surprendre certains.
Oui, Yann. Bonjour et bonjour à tous. Nous abordons ce sujet simplement parce que la Bible affirme qu'il est possible d'attrister l'Esprit. Écoutons ensemble deux textes. Le premier est une prophétie d'Ésaïe au chapitre 63, verset 10.
Mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé son Esprit Saint. Dès lors, il s'est changé pour eux en ennemi et les a combattus.
Le deuxième verset se trouve dans le Nouveau Testament, dans une lettre écrite par Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale.
Jean-Marc, comment donc est-il possible d'attrister le Saint-Esprit ?
D'abord, ces versets nous rappellent que le Saint-Esprit est une personne dotée de sentiments. Le Saint-Esprit, comme tout être humain, ressent ainsi certaines émotions, comme la tristesse par exemple. Mais illustrons cela avec l'exemple des parents. Nombreux de nos auditeurs sont parents, et par là même, ils savent que leurs enfants peuvent les attrister. Un parent est là pour encadrer son enfant, pour le conduire vers une certaine maturité et le préparer à l'âge adulte. De même, le Saint-Esprit désire accomplir un tel projet, une telle œuvre dans nos vies. Il désire nous conduire vers une maturité de foi, vers une ressemblance grandissante de Jésus-Christ. Alors nous aussi, nous attristons le Saint-Esprit dans la mesure où nous nous opposons à lui et à ce qu'il veut accomplir en nous.
Mais comment précisément peut-on s'opposer à l'Esprit ?
L'Esprit de Dieu nous parle à travers la Bible, et par elle, il nous conduit. Or, dès lors que nous refusons de prendre au sérieux ce que la Bible déclare, nous nous opposons à l'Esprit et l'attristons. De même que nous persistons à commettre des péchés, nous nous opposons à l'Esprit, car l'Esprit désire nous conduire vers la sainteté et la pureté, la justice et la bonté. Si nous nous obstinons à poursuivre nos propres voies au lieu de marcher avec l'Esprit pour accomplir la volonté de Dieu, nous nous opposons à lui et l'attristons ainsi.
Merci Jean-Marc. Je pense que nous avons bien compris la façon dont nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu. Mais quelles en sont les conséquences ? Car à travers les lignes écrites par le prophète Ésaïe, nous découvrons que face à ceux qui l'attristent, l'Esprit s'est changé en ennemi pour les combattre.
Lorsque nous nous opposons à l'Esprit, il peut sembler se changer en ennemi. En réalité, il agit pour notre bien. Reprenons l'exemple du parent avec son enfant. Lorsqu'un père doit reprendre ou corriger son enfant, il le fait pour son bien. Pour l'enfant et le parent, cette expérience est déplaisante. Aux yeux de l'enfant, le parent peut même apparaître tout d'un coup comme son ennemi. Et si, malgré la correction, l'enfant ne change pas, le parent tiendra bon. Il continuera à raisonner son enfant, à le persuader de bien se conduire. Il agira ainsi jusqu'à ce qu'un résultat positif soit obtenu. De la même manière, le Saint-Esprit, attristé par notre opposition à Dieu, ne nous délaissera pas pour autant. Au contraire, il redoublera d'efforts dans l'espoir de nous convaincre qu'il est dans notre intérêt de l'écouter et de le suivre. et dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Or, ce processus peut être pénible et douloureux.
Mais certains craignent que s'ils attristent l'esprit, il se retirera de leur vie et il les abandonnera.
Selon le Nouveau Testament, lorsque Dieu accorde son esprit à une personne au moment de sa conversion, celui-ci ne se retirera jamais d'elle. De même que le père d'un enfant rebelle ne cessera jamais d'être le parent de son enfant, le Saint-Esprit demeurera toujours avec le croyant, même si le sentiment de sa présence en lui peut changer en fonction de la façon dont il se comporte.
Pouvez-vous vous expliquer davantage ?
Nous pouvons avoir l'impression que l'Esprit ne vit plus en nous, mais en réalité, il est toujours là, avec nous. Peut-être à force de constater que nous ne l'écoutons pas, choisit-il de ne plus nous parler ? Peut-être parce que nous nous opposons à ses desseins dans nos vies, choisit-il de ne plus exercer sa puissance en nous ? L'Esprit, attristé, peut nous laisser partir sur nos propres chemins, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il nous a abandonnés.
Peut-être qu'à travers cette discussion, certains auditeurs prennent conscience d'avoir attristé l'Esprit de Dieu. Ils sont inquiets. Que voudriez-vous leur dire ?
La prise de conscience d'un problème permet de le résoudre. Nous pouvons chacun nous examiner et considérer si nous résistons à l'œuvre de l'Esprit. Nous devons réfléchir et voir si nous écoutons la parole de Dieu, si quelquefois nous nous opposons à sa volonté. Nous pouvons confesser à Dieu les attitudes en nous qui l'attristent avec l'assurance que si nous sommes sincères, Dieu nous pardonnera. Mais demander seulement pardon ne suffit pas. Nous devons aussi accorder à l'Esprit la place qui lui revient en l'écoutant et en coopérant avec lui dans la belle œuvre qu'il cherche à accomplir en nous.
Nous remercions Jean-Marc pour ses enseignements clairs et instructifs.
Et nous passons tout de suite à notre série de méditations bibliques. Hélène va lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, les versets 31 à 33. Ensuite, Robert nous fera part de ses réflexions sur ce texte.
Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus.
Depuis quelques émissions, nous réfléchissons aux paroles de Jésus lorsqu'il déclare « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Cependant, cette exhortation de se préoccuper des valeurs spirituelles est suivie d'un encouragement, car Jésus annonce « Et toutes ces choses vous seront données en plus. » C'est sur ce verset que notre invité Robert va à présent se pencher. Bonjour Robert.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. La leçon essentielle que nous devons retenir est celle-ci. Lorsque nous donnons à Jésus la place qui lui revient dans nos vies, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu notre Père prendra bien soin de nous. Lorsque nos priorités s'accordent avec celles du Seigneur, notre Dieu veillera sur nous. Ayant dit ceci, je voudrais faire deux remarques afin d'éviter d'éventuels malentendus. D'abord, le Seigneur Jésus ne nous accorde pas ici la promesse d'une vie sans soucis, ni épreuves, ni souffrances. Jésus ne nous garantit pas une vie facile. Ce qu'il nous promet, c'est que Dieu fera preuve d'un amour fidèle envers nous. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient nos joies, quelles que soient les épreuves qui nous accablent, ensuite, il ne s'agit pas non plus de la promesse que nous vivrons dans l'abondance ou dans le luxe. Non, le discours de Jésus évoque plutôt ceux qui s'inquiètent du lendemain, ne sachant pas comment ils nourriront ou habilleront leur famille. Or, Jésus leur affirme que Dieu pourvoira à leurs besoins. Il leur donnera l'essentiel ou le nécessaire pour vivre. D'ailleurs, lorsque nous accordons à Jésus la place qui lui revient, nous découvrons que c'est lui notre trésor le plus précieux. Nous avons soif de lui et il nous satisfait de sa présence. Et tous les biens matériels perdent alors dans nos cœurs l'importance qu'ils avaient.
Évidemment, nous éprouvons des besoins sur les plans physiques et matériels, et ces besoins sont légitimes. Mais Dieu le Père nous assure que nous n'avons pas à nous en inquiéter, car en tant que Père, il pourvoit à tous nos besoins, et en temps voulu, il nous permettra de tout surmonter.
Tout à fait, Yann. Mais j'aimerais souligner une troisième attitude dont nous devons nous méfier et que nous devons éviter à tout prix.
Je vous en prie.
Cette vérité selon laquelle nous sommes assurés de la présence de notre Père Céleste, de son aide et de son soutien, ne doit pas nous entraîner vers la paresse ou bien vers l'idée fausse que puisque Dieu s'occupe de nous, nous n'avons plus d'efforts à faire. Il n'en est rien. L'enseignement de Jésus a pour but d'apaiser nos anxiétés, d'atténuer nos inquiétudes. Et nous ne devons pas nous en servir pour négliger nos responsabilités.
Je me souviens de l'une des lettres de l'apôtre Paul où il reproche la paresse de certains croyants. Puis il les incite à travailler et à assumer leurs responsabilités dans la vie.
Oui, c'est exact. Rappelez-vous que cette promesse, toutes ces choses vous seront données, est destinée aux chrétiens qui se préoccupent du règne de Dieu. Autrement dit, à ceux et à celles qui cherchent à accomplir sa volonté. Or, la volonté de Dieu pour les hommes et les femmes est qu'ils travaillent afin de subvenir aux besoins de leur famille.
Ainsi, toute personne qui reste chez elle, tout en espérant que Dieu pourvoie à ses besoins, se pose en fait à la volonté de Dieu. Et du coup, elle ne peut plus s'appuyer sur ses promesses.
C'est vrai. Je précise toutefois que nous parlons ici de personnes qui pourraient très bien travailler, mais qui refusent de le faire. Nous sommes conscients que nombreux sont ceux parmi nos auditeurs qui aimeraient travailler, mais qui ne le peuvent, à cause de problèmes de santé ou ne parvenant pas à trouver du travail pour raison de chômage ou manquant d'opportunités. À travers leur épreuve, ces chrétiens peuvent garder l'assurance que Dieu leur Père prendra bien soin d'eux d'une manière ou d'une autre et qu'en temps voulu, Dieu pourvoira à tous leurs besoins.
Merci Robert pour toutes ces précisions importantes. En fait, nous prévoyons dans un avenir proche de préparer une série d'émissions sur ce thème du travail. Nous reviendrons alors plus en profondeur sur certaines des leçons et des questions que nous venons brièvement d'aborder.
Nous remercions nos deux invités pour leur participation aujourd'hui. Et nous vous remercions, chers amis auditeurs, pour votre écoute. En espérant vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.